Ensuite. Je le fais tout seul ou vous allez m'aider?
Non, mais ensuite ça sera l'heure de la chronique. Il faut que ça se sache. Et puis nous aurons une page science. Les arbres expliquent l'Amérique, l'Amazonie précolombienne. Enfin, c'est une annonce pour cette manif contre les violences policières et le racisme. Ça se passera à Paris samedi prochain. Et enfin, nous terminerons avec un conseil de lecture.
Et au milieu de ça, on parlera du lycée Doineau qui est en grève. Qui n'apparaît pas sur le film, mais voilà, on en parlera quand même.
Quel programme.
Et ouais.
La plus rebelle des radios.
Alors, suite à ce fil d'infos que nous allons vous faire, nous sommes donc le mercredi 15 mars 2017. Il est 19h passé de 4 minutes, c'est l'heure du Canu Info. Et il y a 6 ans, Bachar al-Assad déclarait la guerre à son peuple suite à un mouvement de rue qui dénonçait la dictature. Depuis, cette rage et cette vie se sont transformées plutôt en une lente agonie, une guerre contre les djihadistes. Une guerre qui était au départ contre son peuple, qui est petit à petit devenue une guerre... généralisé contre les djihadistes. Et pour marquer cette funeste dégringolade, un kamikaze s'est fait exploser aujourd'hui dans l'ancien palais de justice au cœur de Damas. Et 2 heures plus tard, un deuxième attentat a frappé l'ouest de la ville. 25 morts de plus dans une guerre qui, aux yeux des médias français, se joue plus entre la Russie, les États-Unis et la Turquie que pour les Syriens qui perdent leur vie, leur territoire. Quel anniversaire pourri, bordel.
Et on continue avec les mauvaises nouvelles. Et c'est l'Agence européenne du produit chimique qui vient d'annoncer qu'elle ne classait pas le glyphosate parmi les substances cancérogènes. Alors, décision complètement contradictoire avec la décision de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui lui avait classé cette substance cancérogène. Le glyphosate, on le rappelle, c'est la substance qui compose principalement le produit Roundup. Le désherbant de Monsanto,
dont on parlera un peu après aussi. Monsanto,
et ben voilà, et ben ça vous donnera un petit aperçu. Le risque de ça, c'est que ce produit soit réautorisé en Europe. Alors, ça voulait pas dire que le Roundup avait disparu des rayons, ça voulait dire que par exemple Ségolène Royal avait promis qu'elle le supprimerait en tout cas à l'usage des particuliers dans un premier temps. Je crois que c'était 2020 et puis après c'était 2030. Enfin bref, c'était à chaque fois c'était repoussé.
Et est-ce qu'elle avait promis de disparaître des rayons?
Non. Et voilà, donc voilà, ça voulait pas dire que le produit avait disparu directement, mais vous savez, il faut le temps aux industriels de mettre tout leur sous de côté pour pas que ça leur fasse trop mal. Quand on parle de Monsanto, on parle assez vite de conflits d'intérêts qui vont avec. Et cette agence qui a pour rôle de, je cite, contribuer à garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et l'environnement, mais aussi, je continue, je recite, d'améliorer la compétitivité et l'innovation des produits chimiques. Hein. Voilà, pour ceux qui ont une petite contradiction, c'est normal. Et ben, cette agence est régulièrement pointée du doigt pour ses nombreux conflits d'intérêts. Par exemple, une soixantaine d'associations comme Greenpeace, par exemple, dénoncent plusieurs experts ayant participé au rapport sur le glyphosate. Alors, ces experts ont travaillé ou travaillent comme consultants pour l'industrie chimique. Deuxième point que dénonce Greenpeace, c'est le fonctionnement un peu opaque des études dites non publiées. En gros, l'agence dit, tiens, dans telle étude qui peuvent venir, par exemple, de l'industrie, ils disent, bah, pas de problème pour tel ou tel produit, mais bon, si vous voulez vérifier, bah, voilà, il faudra repasser. Ou alors nous faire confiance, mais pour la confiance, c'est plutôt raté.
Un incendie au squat le VO à Grenoble. En fait, le VO, c'est Village Olympique. C'est un gros projet. Vous rappelez qui avait été construit pour les Jeux Olympiques
de 68.
Voilà. Il y a très longtemps à Grenoble. Et donc, le VO, ben, c'est un squat de demandeurs d'asile et de réfugiés, majoritairement d'Afrique de l'Est et aussi des sans-papiers, ben, qui a été incendié ce matin. C'est un squat où vivent des personnes en auto-organisation. Et c'est un bâtiment du Crous qui avait été réquisitionné il y a 4 ans et demi pour du coup, que ces personnes aient un logement sur la tête. Voilà. Et sauf que ben, depuis un mois, la ville a coupé l'électricité qu'ils avaient réussi à garder depuis 4 ans et demi. Ce qui est chouette, sauf que c'est sûrement responsable de l'incendie qu'il y a eu, le fait qu'ils aient plus d'électricité, parce que c'est des personnes, comme tout le monde, qui continuent à manger, à chauffer, à faire un certain nombre de trucs et à avoir de la lumière. Et donc, sans électricité, ça peut augmenter les risques d'incendie. Et donc, il y a eu un départ de feu et c'est un incendie qui s'est propagé sur plusieurs étages assez rapidement. Donc, il y a eu des personnes qui ont été intoxiquées, d'autres personnes se sont défenestrées par peur des flammes. Et donc, plusieurs blessés qui ont été amenés à l'hôpital. Et bien sûr, ben, il y avait les pompiers, les SAMU, les flics en grand nombre qui sont mobilisés couper le feu, mais aussi pour créer un dispositif, un nouveau dispositif entre guillemets de crise là, pour les personnes. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que là, la ville a ouvert un gymnase afin d'accueillir les personnes qui n'ont plus de toit. Mais alors, les questions que ça pose, c'est pour combien de temps ce gymnase il est ouvert ? Parce que là, c'était un squat, on va dire, plutôt pérenne. Du coup, on sait bien que les gymnases, c'est des solutions de secours. Donc, pour combien de temps ? Il y a également le fait qu'il y a des personnes qui habitent là, qui n'étaient pas présentes aujourd'hui, et puis tant mieux pour elles, d'une manière qu'elles n'aient pas été présentes, sauf qu'elles n'ont pas été prises en charge par le dispositif. Et elles sont là, ah ouais, mais là, j'habite là, je ne peux pas aller au gymnase, je vais où ? Et du coup, vous voyez, ce genre de flou administratif assez dégueulasse. Et quoi dire d'autre ? Ben, c'est surtout que, comme quand on habite quelque part, elles ont perdu toutes leurs affaires sur l'incendie, voilà, elles ont plus d'affaires. Et du coup, pour cette information-là d'aujourd'hui, ça rappelle un article qu'on trouve sur Rébellion de lundi, c'est qu'il y a eu aussi un incendie qui s'est déclaré entre 19h et 20h, c'était au squat du Poireau à Villeurbanne, qui est ouvert lui depuis 2 ans. Les occupants ont réussi à évacuer les lieux assez rapidement sans blessés, là, contrairement au VO. Mais par contre, les personnes, les habitantes ont passé la nuit sur le trottoir d'en face sans aucune solution proposée. Donc pareil, là, l'incident peut être plutôt électrique. Mais bon, dans tous les cas, elles ont perdu leur lieu de vie. Du coup, c'est une centaine de personnes. Non, je crois que c'est une soixantaine de personnes à la rue, parce qu'elles sont une centaine de personnes. Mais il y a quelques femmes qui ont des bébés en bas âge, qui ont trouvé des places d'hébergement. Et sauf que la plupart des autres personnes sont sans solution. Et du coup, il y a un appel à solidarité assez large qu'on est en train de passer, qui s'organise. Du coup, il ne faut pas hésiter à aller soutenir les familles en attente d'une solution, donc du repas, des repas, de l'eau, du café, puisqu'elles sont sur les trottoirs du 62 rue Émile Decor, qui est en face de leur squat incendié. Donc je répète, 62 rue Émile Decor. Donc si on passe à côté à un moment, il ne faut pas hésiter à... aller filer un petit truc.
Et pour revenir sur l'incendie du village olympique, ça rappelle tristement ce qui s'était passé il y a 2 ou 3 ans à Lyon, où pareil, un squat où vivaient plein de familles à cramer, et c'était aussi parce que EDF, alors je sais, il me semble que c'était la demande de la mairie, enfin bref, on s'en fout, avait coupé les legs, du coup les gens s'étaient retrouvés contraint de s'éclairer à la bougie, de se faire à bouffer avec des flammes, tout ça, ou des buts à gaz. Et une ou deux personnes étaient mortes dans cet incendie.
Ouais, là, il y avait eu des morts. Et bah oui, quand t'as beaucoup de personnes dans un même lieu et puis que tu joues avec les flammes, c'est sûr que c'est pas très drôle.
Et on va du côté de Vaux-en-Velin, où hier le personnel du lycée Doineau, les lycéens et les parents d'élèves étaient en grève pour réclamer plus de moyens et de meilleures conditions pour enseigner ou pour suivre les cours, hein, pour les lycéens et lycéennes. Déjà en janvier dernier, ces lycéens s'étaient mobilisés pour protester, enfin ces lycéens et le personnel, enfin bref, tout l'établissement quoi, pour protester notamment contre la disparition du seuil de 30 élèves par classe. Ça veut dire que le nombre de 30 élèves par classe pouvait être bien supérieur à ça, ce qui est déjà quand même beaucoup. Et hier donc, tout ce beau monde s'était rassemblé devant le lycée pour protester. Plus de 70% des profs et personnels étaient en grève ce mardi. Voilà, les lycéens étaient également là devant leur lycée hier, et ils ont décidé légitimement de poursuivre le mouvement seul cette fois-ci, ce matin, pour faire le pont avec la prochaine journée de grève qui est demain. Alors voilà, ils ont donc organisé ce matin à 8h un barrage filtrant devant les grilles du lycée, barrage filtrant qui consistait en gros à laisser entrer les gens qui voulaient rentrer et juste à motiver les élèves gentiment pour les rejoindre, pour leur conseiller de venir les rejoindre plutôt que d'aller en cours, quoi. Tout ça dans la bonne ambiance. Les profs, n'ayant aucun élève dans leur classe, venaient taper la discute avec les élèves à l'entrée. Voilà, ça c'est pour un peu vous dire à peu près
l'ambiance,
la gueule du barrage et de la grève des élèves, parce que des fois c'est plus tendu que ça, même avec les profs. Mais vers 10h30, là, des poubelles sont amenées près de l'entrée pour rajouter un peu de cachet au blocus. Et là-dessus, la BAC déboule comme des furieux et chope assez violemment deux élèves sous le regard médusé de leurs camarades qui n'ont pas eu le temps d'intervenir face à la surprise et à la rapidité des baqueux. Quelques membres du personnel ont bien tenté de dialoguer avec les flics, mais se sont fait copieusement insulter par ces derniers. Sur les deux arrêtés, un a été conduit en garde à vue immédiatement et l'autre a d'abord été conduit dans la camionnette des flics, puis a été transféré en garde à vue par la suite. Bon, on sait pas trop pourquoi lui il a été en camionnette avant. Voilà, pour l'instant on n'a pas de nouvelles de deux, mais si on en a mercredi prochain dans les prochains Canu Info, peut-être que... ou alors suivez Roblio.
Et on se décale complètement du côté cette fois-ci du Burkina Faso, qui est un pays quand même assez pauvre, mais on ne peut plus magnifique, donc du côté donc de l'Afrique. Et on va parler de nouveau de Monsanto, qui a fait des merveilles, saisissez l'ironie, du côté du Burkina Faso. Alors, je vous cite un petit peu comment ça a commencé. C'est le magazine Jeune Afrique qui a trouvé un mail interne de la société Monsanto qui disait, en gros, ça suffit, on se casse. On se casse, ça veut dire qu'ils étaient là, Monsanto était là, et donc c'est ça dont je vais vous expliquer un petit peu l'histoire, une histoire qu'on peut retrouver sur le site de Bastamag. Voilà. Alors en fait, c'est carrément un énorme fiasco du côté de Monsanto, parce qu'ils ont essayé d'introduire massivement une solution miracle à base d'OGM du côté du Burkina Faso, et surtout pour la, pour la culture du coton. Et je vais vous expliquer que c'est le big patatras, et voilà, sans parler du fait que déjà populariser les OGM, ça fait grave chier. Alors voilà, c'était des OGM qui étaient importés pour résister aux attaques des insectes. Et petit bug, et ben en fait quand même, on ne le savait pas, mais enfin vous le saviez peut-être, le coton du Burkina Faso, c'était le coton considéré comme le meilleur, le plus beau, le plus exceptionnel coton du monde entier. Et il avait une fibre en particulier qui est très longue, donc qui est particulièrement adaptée pour faire le tissage. Eh bien, manque de bol, le coton OGM de Monsanto, eh ben, il n'avait pas les bonnes propriétés. Et au bout de quelques années, eh bien, la fibre de coton s'est retrouvée à être complètement médiocre. Et donc, l'or, entre guillemets, cotonnier de ce Burkina Faso, eh ben, a disparu. Voilà, donc c'est la cata pour Monsanto, mais tant mieux, parce qu'on a envie de leur faire un gros doigt d'honneur. Alors, il faut quand même revenir en 96. Il y a des difficultés, hein, évidentes du côté de la culture. On avait parlé des difficultés de la culture du riz au Bénin, là, il y a 3 semaines. Et là, c'est un peu le même souci. Des invasions massives de chenilles dans toute l'Afrique de l'Ouest en 96. En 98, là, c'est un insecte qu'on connaissait pas jusque-là. Une espèce de mouche blanche qui a fait des dégâts sévères, alors que les champs étaient tout blancs, hein, ils étaient sur le point d'être récoltés. Donc il fallait trouver une solution. Et le coton, bah, le coton c'est environ 25% des emplois de manière indirecte, hein, au Burkina Faso. Donc c'est vraiment c'est quelque chose qui est très structurant dans l'économie du Burkina Faso. Alors du coup, à la base, bah, c'est quand même les cultivateurs qui ont dit, bah, écoutez, on commence à trouver qu'on ne va pas y arriver. Et le gouvernement a demandé une solution et ben voilà. Il y a Monsanto qui est arrivé, il y avait aussi Syngenta, alors c'est un peu le même style, hein. C'est, voilà, c'est tout un peu bonnet blanc, blanc bonnet. Quand je dis blanc, c'est du blanc OGM. Hein. Le business a fait que c'était parti. Le Burkina Faso a signé pour l'introduction des OGM Monsanto. Alors, il y a quand même une commission de sécurité qui avait été montée, mais dans le détail, vous lirez ça sur le site de Bastamag, visiblement c'était quand même une commission un petit peu fantôme qui a fait qu'au bout de 2 ans, ils ont dit, il n'y a pas de problème, on peut y aller, vas-y mon kiki. Alors, le bug dans l'histoire, c'est que, en fait, Monsanto, eh ben, il n'y a pas tellement de dollars à gagner au Burkina Faso. Donc, ils y sont allés un peu à la va-vite. Alors, techniquement, en fait, quand vous faites des OGM, et je répète qu'on est farouchement anti-OGM, en tout cas, dans cette pièce, quand on fait des OGM, il faut faire des croisements, puis encore des croisements, puis des rétro-croisements, apparemment. Voilà. Il faut en faire 7 pour garantir qu'en fait, il y a bien, disons, il y a bien ce qu'il faut. Et Monsanto, tu vois, ils y sont allés décontracter, ils n'ont fait que 2 rétro-croisements, ce qui fait que leur OGM, il était carrément tout pourri, et donc c'est ce que je vous ai expliqué, il a fait bien plus de mal que de bien, sachant qu'on se demande bien s'il y a des OGM qui peuvent faire du bien. En tous les cas, Monsanto se casse, pour reprendre l'accent du coin, que je n'ai pas, et voilà, il y a quand même un ancien employé de Monsanto qui dit, bah, c'est quand même grave, pour une entreprise comme Monsanto, le marché dans un pays comme le Burkina Faso n'est pas assez important, il ne représente pas assez de dollars, ça ne valait pas la peine d'investir encore plus. Voilà comment ça se passe. Et la suite de l'histoire, c'est que au-delà des problèmes d'OGM, c'est toujours pas simple pour les producteurs de coton. Il y a un autre problème, c'est que en fait le coton est contrôlé par des sociétés cotonnières et par l'Union des producteurs, donc c'est vraiment contrôlé au niveau hyper centralisé. Et alors, il y a un petit problème, c'est que au niveau des graines, c'est pas comme les autres cultures où en fait on peut récolter par exemple le maïs, le haricot, le sésame ou le sorgho. Eh bien, les cultivateurs, les paysans peuvent eux-mêmes récupérer les graines de leur production. Ben là, avec le coton, c'est pas possible. En fait, les semences, c'est pas une histoire de semences Terminator, vous savez, c'est ces semences qui sont auto-dead. Il faut en avoir chaque année, donc ça permet de faire du méga business. Donc c'est même pas ça. C'est plus technique, c'est qu'en fait, c'est difficile de séparer manuellement les graines de la fibre. Donc il faut que ce soit fait dans une usine. Donc, je vous explique comment ça se passe. Les paysans, ils se débarrassent de leurs fibres, mais en fait, ils se débarrassent eux-mêmes, malheureusement, des graines. Les conglomérats récupèrent tout ça, et donc récupèrent les graines, et puis ils les revendent aux fameux paysans qui leur ont donné les graines. Alors ils leur revendent ou ils leur font de l'huile. Alors vous voyez un petit peu cette histoire de séparation industrielle des graines qui devient une énorme source de corruption et d'abus, donc toujours du côté du Burkina Faso.
Mais ça, en plus là-dessus, il devait être un peu dans la merde, sachant que du coup les cultures du coton du coton qui du coup était pas Monsanto et plus efficace a dû se raréfier et du coup ils ont dû vendre les graines beaucoup plus cher.
Alors c'est pas précisé, mais en tous les cas on sent bien qu'il y a deux problèmes et qu'il y en a un qui est vraiment lié à cette entreprise capitaliste et odieuse qui est Monsanto, qui essaie de propager une technique qu'on n'a pas envie de voir, et l'autre qui est plus des us et coutumes locales où en fait il y a une espèce de fil conducteur de la semence qui fait que la semence échappe aux paysans. Donc il y a quand même un début de lutte paysanne pour se réapproprier leur filière. Donc ça commence à chauffer un petit peu. Les cultivateurs de coton font un petit peu des tournées à la rencontre des paysans. Donc j'ouvre les guillemets, on se réunit tôt le matin, chacun cotise pour le carburant des motos et on visite des villages et on essaie d'écouter les paysans, etc. Bon, il y a une espèce de structuration qui est en cours pour essayer un petit peu de mettre des revendications avec la revendication première qui est, j'ouvre les guillemets, l'implication des paysans dans le cycle du coton, depuis la semence jusqu'au produit commercial. Voilà, donc c'est pas tout rose, ni au Bénin, ni au Burkina Faso, sur la partie agricole.
Écoutez, à tout moment, ils peuvent venir te prendre pour le moment qui est à leur disposition.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à exploiter.
J'arrive pas à comprendre qu'on soit vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des limites par terre. C'est que les lois mises en place. C'est que les lois mises en place.
Blabla, info, contre la machine à expulser.
Voilà, toujours sur Radio Canu, 19h23, c'est l'heure de la chronique, il faut que ça se sache.
Et ce soir, comme souvent dans cette chronique, on part du côté du nord de la France, de Calais, et là, plus précisément, du côté de Boulogne, où un certain... Voilà, j'ai trouvé un article sur Street Press, et donc notre personnage principal dans cet article s'appelle Mathieu, ce qui est un prénom, on nous précise que c'est pas son vrai prénom. Mathieu a décroché le gros lot, parce que lui, il a eu des soucis avec la justice pour avoir aidé des migrants, des amis à lui, à traverser la Manche en canot pneumatique. Donc voilà, en août dernier, il se fait arrêter devant chez lui, et puis il passe devant le juge. Et donc là, il n'est pas jugé immédiatement et il est sous contrôle judiciaire en attendant son jugement. Alors, un contrôle judiciaire plutôt serré avec une mesure, ma foi, qui vaut le coup d'être racontée. Puisque, alors, il a interdiction de se rendre à Grande-Synthe ou à Coquelles, qui est donc juste à côté de Calais, sauf pour prendre l'autoroute, précise le contrôle judiciaire. Interdiction de contacter ses complices présumés, bon, jusque-là, du classique. Mais il y a plus original, puisque Mathieu a aussi l'interdiction formelle de parler avec tout journaliste, entre guillemets, avec tout journaliste. Et donc, c'est précisé noir sur blanc sur le document qui a été consulté par les journalistes de Street Press. Alors, a priori, il s'agit quand même d'une première. Bon, bien sûr, c'est pas très facile pour médiatiser cette histoire, hein, on comprend bien. Alors, selon les informations des gens de Street Press, l'homme aurait déjà contesté la décision sans succès, mais dans tous les cas, ils disent bien que c'est difficile d'avoir des précisions puisqu'ils ne peuvent pas le contacter. Alors, pour justifier ce placement sous contrôle judiciaire, le juge d'instruction, qui par ailleurs est quand même, avant d'être juge, il était commissaire de police, ce monsieur, il invoque l'article 138.9 du Code de procédure pénale. Et alors, c'est un article qui encadre le contrôle judiciaire et qui dit que dans le cadre d'un contrôle judiciaire, on peut décider d'un certain nombre d'obligations, dont l'obligation de ne pas rencontrer un groupe de personnes. La décision ne peut théoriquement concerner que des individus liés à la procédure. Alors voilà, dans quelle mesure est-ce que les journalistes sont liés à la procédure ? C'est pas évident, et de toute façon dans ce cas-là, le parquet est obligé de motiver sa décision, et ce qui n'est pas le cas dans cette décision, dans la décision qui concerne ce Mathieu. Son contrôle judiciaire serait donc illégal. Alors, selon le syndicat des avocats, c'est une atteinte à la liberté. On ne peut pas interdire de voir des journalistes comme ça. Il faut qu'il y ait un lien avec les faits reprochés. Même réaction du côté du syndicat de la magistrature, qui nous dit c'est une décision originale. On peut à minima s'interroger sur la raison de cette interdiction au regard de la loi. Et qui poursuit en disant éviter la publicité, ce n'est pas une raison suffisante qui peut justifier un contrôle judiciaire. Alors pour un avocat qui s'occupe souvent de ce type d'affaires, lui il explique que ça représente bien ce que c'est l'ambiance au tribunal de Boulogne, donc Boulogne-sur-Mer, on est d'accord, le nord de la France à côté de Calais, et cet avocat dit ils sont un peu spéciaux à Boulogne. Pour toutes les affaires qui concernent de près ou de loin des histoires de sans-papiers, on prend quadruple peine de ce qui se passe dans les autres tribunaux. Voilà, contacté par Street Press, le parquet de Boulogne n'a pour l'instant pas souhaité répondre à nos questions. Continuons vers Calais. Pour les personnes qui ont connu Calais avant la création du bidonville, sous la pression des pouvoirs publics en mars-avril 2015, la scène qu'on va raconter a un air familier. En fait, je vous lis ici, encore une fois et comme souvent, un article du site Passeur d'Hospitalité. Et donc cet article nous décrit cette scène. Le quai de chargement des camions du hangar Paul Desvaux a été l'un des lieux de distribution de repas jusqu'à ce que les pouvoirs publics concèdent un lieu aménagé en 2009. Puis, à nouveau et de manière occasionnelle, après l'évacuation du lieu aménagé pour la distribution des repas qui avait été occupé par les exilés en 2014, l'autre lieu de distribution était un terrain vague quai de la Moselle qui n'est plus praticable puisque un bâtiment y est en cours de construction. Et donc c'est dans ce fameux hangar Paul Desvaux que des associations ont décidé d'organiser ces derniers jours la distribution de repas en réponse aux arrêtés municipaux qui interdisent ces distributions de repas dans différents secteurs de la ville. Donc la maire de Calais, on en avait parlé la semaine dernière, je pense. Ouais, c'est ça, sur vraiment la guerre des douches et des repas, quoi. Donc, en l'occurrence, des personnes de tous les horizons de la solidarité sont venues à cette distribution, au-delà des divergences entre associations et groupes militants, divergences qui ont été fortes ces dernières années. Mais là, pour le coup, cette histoire d'interdiction de repas, ça va vraiment très loin, et donc les gens ont réussi à se retrouver là-dessus. À des personnes plus anciennes à Calais, la situation rappelle sans doute la période qui a suivi la fermeture du centre de Sangatte en 2002, quand il avait fallu remettre en place, sous le harcèlement de la police, une solidarité qui répondait aux besoins de base, manger, se laver, se vêtir. À défaut d'avoir ne serait-ce qu'un abri, à défaut de pouvoir accéder à ses droits fondamentaux, puisque on le sait, Calais est une zone complètement hors droit et hors légalité pour un certain nombre de choses. On avait parlé, alors il me semble que c'est la semaine dernière, de cette fameuse guerre des douches et des arrêtés municipaux, puisque ce qu'on avait dit, c'était que la municipalité mettait des arrêtés municipaux pour empêcher les gens d'aller se doucher dans les douches qui avaient été installées par le Secours catholique. Et puis que la police arrêtait les gens devant les douches, les gens qui venaient se doucher. En particulier, il y avait pas mal de mineurs qui se faisaient arrêter. Mais comme ils étaient arrêtés sans vraiment de raison, on les emmenait au commissariat qui était à une heure de marche de tout. Et puis après les avoir fait traîner un petit peu dans le commissariat, on les relâchait là. Ça leur faisait une heure de marche, c'est bon pour la santé. Là, depuis que les douches ont été mises en place par le Secours catholique à Calais, et elles font l'objet d'un harcèlement, tant de la mairie que de l'État. Et donc, des citoyens concernés se retrouvent, pour le coup, chaque samedi matin, alors pour le coup, au centre-ville, pour se doucher en public, puisqu'il est plus possible aux exilés, sous peine d'arrestation, de se doucher dans un lieu privé. Et donc, ils disent, puisqu'on n'a plus le droit de se doucher dans un lieu privé, nous, on vient se doucher en public. Alors, ils se baladent sur le marché en peignoir, et ils distribuent des tracts. Comme les distributions de repas se sont déplacées, puisqu'il y a un arrêté municipal, un nouvel arrêté a été pris concernant le nouveau lieu, mais aussi le nouvel arrêté interdit aussi tous les rassemblements sur la place d'armes. C'est l'endroit où ces gens donc se retrouvent en centre-ville juste pour protester contre les arrêtés. C'est-à-dire qu'il y a les arrêtés qui empêchent les gens d'aller se doucher ou d'aller prendre des repas, mais il y a aussi l'arrêté qui empêche les soutiens de protester contre l'interdiction des douches et des repas. Et c'est donc place d'armes des personnes en peignoir, oui, j'ai déjà dit. Ces gens déclarent sur Facebook que tant que les douches des exilés feront l'objet d'un harcèlement, les actions bain public, elles s'appellent, continueront.
Il faut que ça se sache.
Et alors, toujours à propos de Calais, mais pas que, alors, est-ce que vous voyez ce que c'est la CNCDH ?
Commission nationale des droits de l'homme ?
Tout à fait, consultative, c'est pour ça qu'il y a annoncé, mais c'est
ça. Ah, ça, c'est le consultatif, c'est-à-dire qu'ils peuvent donner leur avis, mais qu'on ne
oui,
sera pas
écouté. Oui, et on ne prendra pas en compte, tout à fait. Bon, la CNCDH, c'est une autorité qui est une autorité indépendante, mais malgré tout, qui est vraiment un truc qui est une émanation de l'État. Un truc complètement officiel, ça a été créé en 47, donc cette CNCDH, son rôle est de conseiller le Parlement et le gouvernement pour tout ce qui concerne les droits fondamentaux et les libertés publiques. Normalement, elle exprime ses positions par des avis et des rapports qui sont éventuellement rendus publics, mais juste parce qu'on peut aller les consulter, mais en tout cas, elles sont pas, y a pas un effort de publicisation. Bon, lorsque la présidente de cette institution sort de ce cadre pour interpeller directement le Premier ministre, en lui écrivant une lettre ouverte et en l'envoyant aux médias, c'est pour marquer la gravité de la situation. Alors voilà la lettre que la présidente a écrite à monsieur le Premier ministre, et elle rajoute après, parce que la lettre est tapée à la machine, mais monsieur le Premier ministre, virgule, et là c'est rajouté à la main, puisque visiblement elle le connaît, cher Bernard, virgule. Sachant combien vous êtes attentif à la situation des migrants, tu parles que Bernard Cazeneuve est attentif à la situation des migrants, à sa manière, c'est sûr. Ça, pardon, c'est mon commentaire, c'est pas dans la lettre. Sachant combien vous êtes attentif à la situation des migrants et connaissant les efforts que vous avez déployés pour le démantèlement du bidonville de Calais, je me vois contrainte aujourd'hui d'attirer votre attention sur l'évolution de la situation des migrants dans plusieurs territoires français. Dans le Calaisis, en Ile-de-France et dans la vallée de la Roya, vous voyez, c'est plutôt la frontière italienne, les acteurs des associations rencontrent depuis plusieurs semaines des exilés contraints de survivre en plein hiver dans les pires conditions. Parmi eux, beaucoup de mineurs de 15, 16 ou 17 ans qui ont parcouru des milliers de kilomètres pour tenter de trouver un refuge et une protection. Ils sont en danger. Les décisions prises récemment par votre gouvernement et annoncées aux associations le 30 janvier dernier par le ministre de l'Intérieur, M. Bruno Le Roux, et par la ministre du Logement, se traduisent dans les faits par un abandon total de très nombreux exilés, majoritairement des mineurs. Face à ces jeunes en danger et pour pallier les carences de l'État, les réactions d'humanité se développent. Des citoyens et des bénévoles s'organisent pour apporter une aide, un toit, de la nourriture. Or, nous constatons que les pouvoirs publics, au lieu d'encourager cette solidarité, se mobilisent au contraire pour la dissuader par des actions d'intimidation. Donc c'est bien la CNCDH qui dit tout ça. Les hommes et les femmes qui développent des actions concrètes de solidarité sont surveillés, contrôlés, interpellés, parfois poursuivis en justice. En particulier depuis quelques jours, des mesures d'entrave graves sont dirigées par exemple à l'encontre de l'action du Secours catholique à Calais. Donc ça c'est le truc dont on vient de parler. Une benne à ordures a été déposée illégalement devant l'entrée de l'association, des salariés et des bénévoles sont interpellés. Plusieurs mineurs ont été, sur quelle base, arrêtés et amenés au commissariat alors qu'ils s'apprêtaient à entrer dans les locaux de l'association pour se laver. Ces faits ne sont pas acceptables, nous ne pouvons que les condamner vivement. Cette situation d'ensemble est une impasse pour tous, une spirale désastreuse, ce grave déni de réalité ne peut perdurer. C'est pourquoi la CNCDH vous demande avec insistance de réexaminer les arbitrages récents que votre gouvernement a pris et de donner sans tarder les instructions pour que cessent les entraves à l'action des associations de solidarité et de défense des droits de l'homme. Je vous prie de croire, monsieur le Premier ministre, blablabla, blablabla.
Et c'est l'heure de notre page science et nous recevons aujourd'hui un expert en la matière.
Et si monsieur maître Kapelovitch. Voilà, bon, c'est pas toujours qu'on parle de science, mais là, c'est plutôt joli puisque c'est une étude scientifique qui fait un petit peu parler les arbres. Et j'ai trouvé que ça valait le coup d'en parler puisque aussi, il s'agit de se décaler sur un autre continent puisqu'il s'agit de parler du bassin amazonien. Alors la grande Amazonie, hein, c'est surtout au Brésil, un petit peu au Pérou, un petit peu en Bolivie. Et la grande question, c'est de savoir comment, qu'est-ce qui se passait avant l'arrivée de Christopher Columbus. Donc on parle de la civilisation précolombienne ou la civilisation préhispanique. Donc c'est finalement les peuples autochtones de l'Amérique. Donc ça, c'est des gens qui ont été quasi exterminés au moment où les Espagnols sont arrivés. Alors, ils ont été exterminés par le flingue, mais ils ont été aussi exterminés par ce qu'on appelle le choc microbien. C'est-à-dire qu'ils ont été exterminés par des maladies qui étaient inconnues par leur système immunitaire. Et donc, les uns après les autres, ils se sont...
Et qui sont arrivés avec les...
Qui sont arrivés avec les conquistadors. Exactement, exactement. Donc, la grande question de cet article, c'est de savoir quid de la forêt amazonienne, pour vous le dire ça simplement, est-ce qu'elle était vide ou est-ce qu'elle était pleine d'hommes? Voilà. Et toi, tu bailles, hein, non, c'est pas bien ça.
Je suis fatigué, ça n'a rien à voir avec.
Bon, donc ça va, on va sortir la boîte à claques. Bon, bref, la question c'est ça. Comment savoir si dans l'Amazonie précolombienne, il y avait un maximum de monde ou pas? Donc t'as une solution, soit tu vas sur place et tu demandes. Donc le truc c'est qu'il n'y a pas grand monde à demander, et puis ça date, hein, puisque c'était il y a 500 ans. Il y a évidemment tout ce qui est de l'ordre de l'archéologie, d'aller essayer de retrouver des ossements, retrouver des sites archéologiques. Donc ça se fait, mais bon, c'est un tout petit peu grand, hein, l'Amazonie.
Ouais, c'est ça, c'est clair.
Est-ce que maintenant tu vas nous dire qu'il y a des arbres qui ont plus de 500 ans?
Non, 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 mais je vais te dire que les arbres ont parlé. Et ça, voilà. Non, juste quand même, la forêt amazonienne, sortir des chiffres, c'est 7 millions de kilomètres carrés. Donc ça doit faire quelque chose comme 14 fois la France. Voilà, de tête. Et il y a environ 400 milliards d'arbres et il y a 18 000 espèces différentes d'arbres dans cette forêt.
Tcha, voilà. Tcha, tcha.
Donc juste pour vous expliquer ce qu'ils ont fait, qui est quand même très élégant, c'est qu'en fait ils se sont interrogés, ils ont regardé dans plein d'endroits, alors en l'occurrence je crois qu'il y a plusieurs milliers d'endroits dans la forêt amazonienne, ils ont regardé ce qu'il y avait comme arbres présents. Donc ils les ont comptés, ils ont regardé quelles étaient les espèces présentes, et en fait ils se sont aperçus que il y avait une, si tu regardes l'arrangement des espèces d'arbres qui sont là, il y a une assez forte domination d'à peu près 80 espèces. En particulier, il y a 20 espèces d'arbres qui sont là très fortement, et c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'arbres de ces 20 espèces qu'il y en aurait par hasard si on avait juste laissé faire la nature, la sélection naturelle, etc., etc. Donc, ils se sont interrogés si c'était des arbres qui n'auraient pas pu être domestiqués justement au moment de l'ère précolombienne. Et effectivement, ce sont des traces, en fait, de l'utilisation par donc ces civilisations précolombiennes d'un certain nombre d'espèces d'arbres ou d'autres espèces qui ont été utiles pour telle ou telle activité qui était humaine.
Et donc, ils les ont privilégiés.
Ils les ont privilégiés et donc ils les ont introduites. On ne sait pas s'ils les ont introduites ou s'ils les ont, comme tu dis, privilégiés. Ils auraient pu les amener, mais elles pouvaient être là et aussi ils ont essayé de faire en sorte qu'elles soient prédominantes. En tous les cas, en particulier vers les sites archéologiques, il y a une prédominance donc d'un certain nombre d'espèces d'arbres qui ne peut pas être le fait de juste la sélection naturelle. Donc, la réponse à y avait-il du monde ou y avait-il pas du monde au moment de l'Amazonie précolombienne, c'est qu'il y avait un paquet de monde. Tu veux dire quelque chose?
Non.
Voilà. Donc c'est juste une petite étude scientifique qui, je trouvais assez élégante. On interroge quelque part les arbres, on comprend qu'ils sont dans une... La démographie des arbres ne peut pas être liée à l'absence d'impact humain, et on en déduit la présence humaine en grand nombre dans cette zone de l'Amazonie.
Allez.
Et y aura-t-il du monde dans le car qui va aller à la grande manif à Paris samedi? On espère.
On interrogera les arbres.
Si on plante des arbres dans le car, on le saura dans 500 ans.
Et oui, parce que bah, y a une convergence à Paris ce samedi 19 mars, puisque c'est une grande marche nationale pour la justice et la dignité. Bon. Sinon, contre le racisme, l'islamophobie, les violences policières, la orga, la chasse aux migrantes. Voilà, je cite un tout petit extrait de l'appel, parce que nous ne nous soumettons pas à l'arbitraire du pouvoir, parce que les mots justice et dignité ont encore un sens pour nous, parce que nous pensons qu'il est primordial de nous organiser ensemble pour lutter contre la guerre faite aux pauvres, aux migrants, aux descendants de colonisés, contre la Ogra, contre l'humiliation, contre le racisme et les violences policières, contre les guerres lâches faites en notre nom, contre des peuples qui ne nous ont rien fait. Retrouvons espoir, force et unité pour faire bloc ensemble au nom de la justice et de la dignité. Voilà, c'est un petit appel. Bon, bref, que la justice et la dignité, ça, même si ce n'est pas des concepts qui nous parlent franchement, ce qui est mon cas, j'avoue. Par contre, bah, pour dénoncer tout ce système bah, raciste et contre les violences policières et, l'islam, et contre l'islamophobie, bah, ça vaut le coup de faire groupe.
On peut citer une série d'articles qui est dans la revue Ballast, dont je parle régulièrement, qui s'appelle la revue Ballast, B-A-2-L-A-S-T, qui parle justement des violences policières, en particulier en disant qu'effectivement, il y a la peine de mort qui n'existe plus en France, mais que quelque part, il existe quand même des mécanismes donc, du fait de ces violences qui peuvent entraîner la mort. Voilà.
Et nous pouvons citer Quartier Libre, notamment aussi, qui parle pas mal de violences policières. Et donc, bah, c'est le comité lyonnais du collectif du 19 mars qui nous propose en fait un départ groupé en car. Donc 6h du mat, métro Gerland, arrivée 12h30 Paris, retour 17h30 Paris, gare de l'Est, arrivée Lyon 23h. Ça vous tente? On sait, c'est des journées fatigantes, mais c'est aussi des journées enthousiasmantes parce qu'on est plein dans le car, parce que c'est fatigant, mais on va marcher, puis on revient, puis on est content de l'avoir fait au final. Et donc, vous pouvez réserver vos places sur un site qui s'appelle www.eventbrite. /e/ billet-car militant au départ de Lyon. Bref, vous voyez, je pense
qu'il
n'y
a pas un moyen un peu plus facile de le trouver.
Bah, je sais pas.
Par exemple, sur Rebellion, non?
Je sais pas. Désolé.
Bah, cherchez dans votre moteur de recherche.
Ouais, c'est ça. Et non, le plus simple, c'est de contacter l'adresse mail 19 mars Lyon. C'est facile ça, @laposte.net. 19 mars Lyon, @laposte.net. Donc c'est pas donné, parce que c'est les tarifs, c'est 30€, 35€, mais c'est 15€ un prix de soutien, et c'est 50, du moins c'est 15€ pour les personnes qui n'ont pas de thunes, et 50€ pour les personnes qui ont des thunes. Et ouais, c'est pas la macronade là, c'est des chauffeurs de bus qui sont vraiment payés quoi. Du coup, c'est pas donné effectivement. Bon, voilà. Et sinon, j'en profite avant de finir ce Canu Info pour dire que le 18 au soir, avant de partir à 6h du mat, il y a moyen d'aller faire une grosse teuf au Tutu, et c'est le collectif de Big Tape et le collectif lesbien Lonnais qui invite à un concert de soutien aux réfugiés LGBTIQ, donc lesbiennes, gays, bi, trans, intersexes et queer. Et donc, bah, il y aura une scène ouverte à partir de 21h. Donc, amène ce que tu veux et viens jouer devant les autres. Et après, il y a différents groupes et une boum. Et ils disent « Soirée ouverte à tous, mais laisse ton pote relou, macho ou homophobe à la maison. » Et pour plus d'infos, t'écris à thebigtape@riseup.net pour avoir notamment le lieu exact, l'adresse exacte du lieu, et puis tu peux t'amuser tout un samedi soir.
Et on termine par un conseil de lecture de la collection, pour en finir avec, c'est le nom de la collection, alors je vous donne juste quand même les attributs de cette collection. J'ouvre les guillemets, critique de la servitude volontaire, de l'aliénation quotidienne, de l'oppression et des inégalités. La collection pour en finir avec, etc. etc. Voilà. Donc le bouquin, ça s'appelle « Le syndrome du bien-être ». Alors c'est un peu étonnant parce que c'est écrit par des gens de la Business School de Stockholm et de la Business School de je sais pas où.
Ça fait un peu peur.
À la radio, vous voyez pas la couverture, mais la couverture est tout aussi flippante. Il y a un tas de gens,
de personnages en train de faire toutes sortes de sports, s'entretenir physiquement, de faire des assouplissements.
Est-ce que je vais y arriver quand même?
Tu vas pas y arriver.
Bon, en tous les cas, un chouette bouquin que j'ai acheté à la griffe. Donc ça s'appelle le syndrome du bien-être et qui évoque un petit peu la façon dont la société actuelle encourage la recherche du bien-être optimal, le fait d'avoir un régime alimentaire idéal, de fait d'affaire du footing, d'affaire du fitness, d'être etc etc. Alors je vous ouvre quand même un petit peu les guillemets. La bonne santé devient un impératif moral, le désir de transformation de soi remplace la volonté de changement social, la culpabilisation des récalcitrants est un des grands axes des politiques publiques et la pensée positive empêche tout véritable discours critique d'exister. Voilà, c'est un livre qui parle du fait que, à force de penser à son bien-être, eh bien, on s'isole quelque part moralement dans son propre soi et on oublie un petit peu de participer à des initiatives sociales, on oublie tout un tas de choses qui pourraient être un petit peu, comme c'est précisé ici, des discours de critique et l'ouverture vers l'autre. Voilà. Alors, c'est assez intéressant et il y a un passage que je souhaitais vous lire qui parle de la mindfulness. Est-ce que vous avez entendu parler de ça?
Pas du tout.
Alors, vous n'êtes pas très très au point, vous êtes même complètement
largué. Vous nous
lâchez. Voilà. Il s'agit en fait de la psychologie... Alors attendez, merde, je me loupe.
Il a l'air d'être écrit petit, ton bouquin. Quand même.
Il est écrit petit, et c'est en fait... c'est la pleine conscience, c'est la méditation de pleine conscience, voilà, et c'est très très à la mode. En fait, le bouquin ne dit pas s'il trouve que c'est bien ou pas de faire de la méditation, en particulier ce courant, la pleine conscience ou pas. Bon, c'est pas ça la critique, c'est que c'est très à la mode actuellement dans les entreprises. Voilà, donc en fait, la méditation de pleine conscience, c'est dans ce courant-là qui dit qu'en fait, il faut que tu te re-regardes toi-même et puis que tu réapprennes à être bien, etc., etc., etc. Bon, alors voilà, l'idée c'est pas ça, c'est que pourquoi c'est dans les entreprises. Et en particulier, il y a un maximum de business qui est derrière tout ça, parce qu'en fait, il y a des formations de mindfulness en entreprise, évidemment, des gens qui s'en mettent plein les brousoufs. Alors, je vous ouvre les guillemets, puisque quand même, ça vaut le coup d'être précisé. C'est Ron Purcher et David Loy qui ont écrit un pamphlet sur cette mindfulness et qui appellent ça la magnofulness. J'ouvre les guillemets. Les entreprises ont jeté leur dévolu sur cette technique car elle leur permet de faire porter le fardeau à l'employé. Le stress étant considéré comme un problème d'ordre personnel, la méditation de pleine conscience s'offre à lui comme la solution miracle pour travailler avec plus d'efficacité et de sérénité dans un environnement toxique. Ces entreprises se servent insidieusement de la pleine conscience, cette méditation, pour rendre l'individu responsable de son propre mal-être social. Au lieu de s'attaquer aux racines du problème, cette méthode se borne donc à lui fournir des outils de développement personnel. Du reste, elle ne traite jamais le stress, l'angoisse ou la dépression comme des troubles résultant de son cadre de travail. Voilà, donc c'est une super technique qui est donc très répandue désormais en entreprise, qui permet de dire, écoutez, on est dans une structure hiérarchique, on vous en met plein la poire, on va vous stresser la rate, mais si vous êtes vraiment stressé, faudrait essayer de vous inscrire à une des séances de méditation qui en plus coûte des ronds. Voilà, donc c'est une lecture qui peut être intéressante, le syndrome du bien-être.
Et ben voilà, ce Canu Info touche à sa fin.
On va vous laisser une petite dizaine de minutes avec la musique des très fameuses bandes continues de Radio Canu, qui est la musique qui passe automatiquement quand il n'y a pas d'émission. Et puis au terme de ces 10 minutes, vous allez retrouver l'excellente émission Idées Noires, l'émission de la coordination des groupes anarchistes.
Et ce ne serait pas sur Radio Canu, une radio qui a 40 ans et qui va pas tarder à peut-être fêter ses 40 ans. Voilà. Donc je sais qu'il me semble que la date est plus ou moins fixée, non, c'est pas encore...
Bon bref, tendez l'oreille.
Faut rester
ça attentif. Se prépare dans l'ombre, mais tendez l'oreille.
Tout à fait, donc on se retrouve la semaine prochaine.
Merci de nous avoir écoutés.
Salut !